Bonjour, frères et sœurs, bon matin. Ceux qui contestent habituellement le christianisme vont souvent s'attaquer sur la déclaration de Jésus qu'il est Dieu. Et c'est sur ce point-là que vont naître des sectes, même. Des sectes qui vont dire non, Jésus n'est pas Dieu, Jésus est une créature comme les autres. Mais ce qui est vraiment ce qui détermine le christianisme et notre foi, que Jésus est Dieu, il est le Sauveur, le Seigneur. Donc, nous devenons des disciples de Jésus. Mais ça semble tellement ridicule pour plusieurs qu'un homme puisse être Dieu que parfois les chrétiens, on a honte. On a honte d'en parler. Mais pourtant, c'est ce qui fait notre fierté. On l'a chanté ce matin, haut et fort, mais est-ce qu'on en a honte pendant la semaine? Ça ne devrait pas, mais c'est un sujet qui reste controversé. Au point où nous sommes rendus dans le récit de l'Évangile de Jean, c'est justement un point qui a soulevé un grand débat et qui a attiré la haine des chefs religieux contre Jésus, parce que Jésus se trouve à Jérusalem, et il vient de guérir un infirme, ce qui est une bonne chose, mais il le fait un jour de sabbat. Les chefs religieux, pour eux, c'était vraiment un affront contre leur autorité. Ils lui reprochaient. En plus, Jésus a dit à l'infirme guéri de prendre son lit et de marcher avec. Un jour de sabbat, c'était considéré comme un scandale. Et pour répondre à leur reproche, Jésus ajoute encore plus à ce qui semble être un blasphème. Il a dit, « Mon Dieu, mon Père, il travaille, moi aussi je travaille, comme lui. » Ça a été encore plus choquant pour les Juifs, parce qu'ils ont compris ce que Jésus voulait dire. En osant appeler Dieu son Père, il se faisait égal à Dieu. Jésus déclarait, sans équivoque, qu'il est égal à Dieu. Mais Jésus, voyant que les Juifs sont scandalisés, il va leur donner une longue réponse. C'est un peu comme une défense, un plaidoyer, même s'il n'a pas besoin de se défendre devant eux, mais c'est un plaidoyer qu'on a le bonheur de pouvoir lire encore aujourd'hui dans la parole et qui révèle beaucoup sur la relation entre le Père et le Fils. Donc, dans sa réponse, il va montrer qu'il n'est pas en train de blasphémer en disant ces choses-là, en faisant ces choses. Il n'agit pas contre la volonté de Dieu. Il est en parfaite harmonie avec le Père. Il va le montrer sous deux angles. Ce sont les deux parties du texte de Jean 5, 19 à 47. Je me suis aperçu que c'est un peu trop long pour l'étudier ce matin. On va se concentrer seulement sur la première partie. Mais dans ces deux parties-là, premièrement, on voit que le Père a mandaté personnellement Jésus. Donc, Jésus n'est pas en train d'accomplir n'importe quelle œuvre qui lui semble bon. Il est en train d'accomplir le mandat qui lui a été confié par le Père. Donc, oser lui faire un reproche, c'est de faire un reproche à Dieu. Puis le deuxième point qu'on va voir en septembre, parce qu'aujourd'hui c'est la dernière étude dans l'Évangile de Jean, ensuite on va faire une pause pour la période estivale, on va étudier des psaumes à chaque semaine par des prédicateurs différents. Donc le deuxième aspect de cette relation intime avec le Père, c'est que le Père rend témoignage au Fils. Le Père lui-même dit que son Fils est Dieu le Fils de Dieu. Ça, on va le voir en septembre. Donc aujourd'hui, on va étudier les versets 19 à 30. Je vous invite à lire avec moi dans Jean, chapitre 5, à partir du verset 19. Jean 5, 19. Jésus leur répondit, « en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire par lui-même, mais seulement ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils le fait également. » Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait, et il lui montrera des œuvres plus grandes encore que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. En effet, comme le Père ressuscite les morts et les fait vivre, de même aussi le Fils fait vivre qui il veut. De plus, le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils, n'honore pas le Père qui l'a envoyé. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Il ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. En vérité, je vous le dis, l'heure vient, et c'est maintenant, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. En effet, comme le Père a la vie en lui-même, ainsi, il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et il lui a donné le pouvoir d'exercer le jugement, parce qu'il est Fils de l'homme. Ne vous en étonnez pas, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les tombeaux entendront sa voix. Ceux qui ont refait le bien en sortiront pour la résurrection et la vie, ceux qui auront pratiqué le mal pour la résurrection et le jugement. Moi, je ne peux rien faire par moi-même. Selon ce que j'entends, je juge et mon jugement est juste parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Amen. Donc, dans ce texte-là qu'on vient de lire, on voit une des deux choses. Donc, la première chose qui explique pourquoi Dieu peut parler et agir avec une autorité qu'il prétend être divine, sans que ce soit un blasphème, c'est que c'est Dieu lui-même qui lui a conféré ce pouvoir-là, qui lui a donné le mandat. Dieu lui donne des œuvres à accomplir. Donc, les Juifs ne devraient pas le juger, parce qu'en le faisant, c'est Dieu qui le juge. Il juge le Père. On va voir ce texte-là en trois sections. Donc, premièrement, de quelle manière Jésus accomplit son mandat. C'est intéressant de voir comment Jésus accomplit les œuvres qui lui sont confiées. Ensuite, les deux autres points, c'est les deux œuvres les plus importantes que Jésus a reçues comme mandat. Quelles sont les deux œuvres les plus importantes? C'est d'abord de donner la vie et deuxièmement, de juger. Donc, d'abord, observons la manière que Jésus accomplit le mandat que Dieu lui a confié. C'est simple, Jésus dit « Je fais comme Dieu ». Il fait comme le Père. Il est son imitateur en tout point. En toute chose, Jésus suit le modèle de Dieu, son Père. Il le dit au verset 19. Il dit « Il n'y a rien de ce que je fais que Dieu ne fait pas aussi. Bon, si je guéris, c'est parce que Dieu guérit. Si je pardonne, c'est parce que Dieu pardonne. Si j'enseigne, c'est parce que Dieu enseigne. Je fais grâce, c'est parce que Dieu fait grâce. J'exhorte, c'est parce que Dieu exhorte. » Donc, tout ce qu'il fait, c'est parce qu'il voit le Père le faire. Donc, c'est déjà une affirmation très forte, hein, parce qu'il n'y a aucun homme qui peut prétendre voir Dieu agir. Le Dieu est visible. On peut voir son effet, mais Jésus ne dit pas simplement qu'il voit l'effet de l'action de Dieu, il voit Dieu agir. Il connaît Dieu intimement. Il est en relation intime avec lui. Donc, c'est déjà une affirmation très forte. Mais il rajoute encore plus fort que cela, tout ce que Dieu fait, il dit, je le fais également. Wow! Ça, c'était assez pour attirer la haine des Juifs. C'est comme de mettre de l'huile sur le feu. Il y a seulement un être divin qui peut faire tout ce que Dieu fait. Et ce n'est pas une exagération, une hyperbole ici. Là. Quand on lit tout l'Évangile de Jean, tout le Nouveau Testament, on se rend compte qu'effectivement, Jésus fait tout ce que Dieu fait. Il n'y a aucune ambiguïté ici dans ce que Jésus déclare. Si Dieu est Dieu le Père, Jésus est Dieu le Fils, son égal en tout. Mais il y a un point ici que Jésus insiste, même s'il est égal en puissance ou dans sa nature divine, il n'est pas égal dans son rôle, dans son autorité. Il demeure soumis au Père. C'est le mystère là, dans le Dieu trinitaire qu'on adore dans la Trinité. Dieu le Père et Dieu le Fils sont égaux en valeur, en dignité, en puissance. Les deux sont dignes d'être adorés parce qu'ils sont un seul et même Dieu. Mais le Fils est soumis au Père. Le Père a autorité sur le Fils. Il dit au verset 30, « Moi, je ne peux rien faire par moi-même. Je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Donc, Dieu le Fils est entièrement soumis au Père. Donc, pour nous, il est le modèle de soumission par excellence. Quand le Nouveau Testament nous exhorte à être soumis à Dieu, bien, observons Jésus. Lui qui est tout-puissant, qui est infiniment au-dessus de nous, qui mérite d'être adoré, il se soumet volontairement au Père. Et il dit que Dieu lui montre tout ce qu'il fait, et c'est pour ça qu'il peut faire comme lui. Mais pourquoi Dieu prend la peine de lui montrer tout ce qu'il fait? Au verset 20, Jésus dit, « Parce que le Père aime le Fils. Le Père aime le Fils. » Donc, ce n'est pas simplement une relation de chef et subordonné entre le Père et le Fils. C'est une relation d'amour, d'amour profond, un amour d'une relation intime entre le Père et le Fils. Le lien qui unit le Père, une relation d'amour profond qui est éternelle. Jésus ajoute que ce que vous avez vu, c'est étonnant, tous les miracles que Jésus a faits. Et là, il vient de guérir un infirme qui était cloué au lit depuis 38 ans, malade, et Jésus l'a guéri, simplement en lui disant « Lève-toi ». Mais toutes ces œuvres-là, Jésus dit « Vous allez en voir des encore plus grandes, plus étonnantes encore ». Il y a d'autres œuvres pour lesquelles Dieu a mandaté Jésus qui sont plus grandes, sont plus importantes, et c'est crucial même pour le destin de la création entière. Et elles sont de deux natures, faire vivre et juger. Donc, la Bible est claire pour le premier point, faire vivre. Dieu seul peut faire vivre. Seulement Dieu est vivant, même il est appelé le Dieu vivant, par contraste à tous les dieux qu'on pourrait imaginer, et même par contraste à toutes les créatures, tous les êtres. Parce que si nous vivons, si les anges vivent même, si les animaux vivent, c'est parce que Dieu nous accorde la vie. Il suffit qu'il cesse de nous l'accorder et nous mourrons instantanément. Mais Dieu n'a pas besoin qu'on lui accorde la vie. Il a la vie en lui-même. Il est vivant. Il est la vie. Il est la source de la vie. Et toute la Bible le confirme. On lit dans 2 Rois 5. Ça, c'est quand le roi de Syrie a envoyé un messager pour dire au roi d'Israël, « Guéris mon serviteur Naaman de la lèpre. » Et le roi d'Israël dit, « Suis-je Dieu pour faire mourir et pour faire vivre? » Donc, il reconnaissait que c'est seulement Dieu qui peut faire vivre ou faire mourir. Seul Dieu a le pouvoir. C'est vrai qu'il y a des gens qui vont tuer d'autres, qui vont commettre des meurtres. Il y a des mamans qui vont mettre au monde une nouvelle personne. Mais tout se passe selon la volonté de Dieu. C'est Dieu qui demeure celui qui accorde la vie. Donc, c'est un pouvoir que seul Dieu détient, mais Jésus dit que Dieu lui a accordé. C'est très fort là, comme déclaration. Et ici, Jésus n'est pas seulement un intermédiaire pour accorder la vie, à la manière d'un prophète de l'Ancien Testament comme Élisée. Par lui, Dieu a pu ressusciter un mort. Jésus n'est pas seulement un intermédiaire, Jésus est lui-même la source de la vie. Il peut faire vivre qui il veut. Il dit au verset 21 qu'il donne la vie à qui il veut. Mais ce qu'il veut, Dieu le Père le veut aussi, puisqu'ils sont intimement liés. La volonté de Jésus est synchronisée avec la volonté de Dieu, le Père. Mais ça demeure quand même que c'est lui qui prend la décision de faire vivre. Il y a ce pouvoir-là qui est divin. Et Jésus ajoute en plus qu'il a la vie en lui-même. Verset 26. « En effet, comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. » On l'a vu au chapitre 1, quand on étudiait le prologue, l'introduction de tout l'Évangile, quand on lit les quatre premiers versets, dans Jean 1, « Au commencement était la parole, c'est Jésus. La parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. » Donc, Jésus, Dieu le Fils, a reçu du Père d'avoir la vie en lui-même. Il est la source de la vie, il est le Créateur. À quel moment est-ce que le Père a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même? Mais quand on lit Jean 1, on se rend compte que lorsque le monde a été créé, ça a été fait par la parole, Jésus. Il avait déjà la vie en lui pour être la source de la vie. Donc, le Père a accordé le pouvoir au Fils d'avoir la vie en lui-même, avant la création du monde, avant même la création du temps, dans l'éternité passée. Donc, est-ce qu'il y a eu un moment où Jésus n'avait pas la vie en lui-même? Non, c'est dans l'éternité passée. Ça dépasse notre compréhension, mais c'est quand même Dieu qui lui a accordé ce pouvoir-là d'avoir la vie en lui-même et d'être la source de la vie. Depuis toute éternité, il est Dieu, le Fils. Et là, Jésus annonce qu'il a le mandat de donner la vie à deux moments différents. D'abord, il dit « maintenant », versets 24 et 25. « en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Il ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. En vérité, je vous le dis, l'heure vient, et c'est maintenant, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. » Donc, c'est le premier moment où ce que Jésus accorde la vie, c'est maintenant. Celui qui croit en Jésus reçoit la vie éternelle, il reçoit déjà la vie éternelle. Donc, vous et moi, qui avons cru en Jésus, nous avons déjà la vie éternelle. Ça ne paraît pas physiquement. Plus on vieillit, plus nos cheveux blanchissent ou tombent. Plus on a des bobos, puis on finit un jour par mourir physiquement, mais on a déjà la vie éternelle en nous. Et même le texte dit qu'on est déjà passé de la mort à la vie. Comment ça, la mort? Mais le Nouveau Testament nous instruit que toute personne sur la terre est morte à cause du péché. Chaque personne qui a péché se trouve dans un état de mort spirituelle. Et nous avons tous péché. Nous sommes tous, même si nous, les hommes peuvent bouger, marcher sur la terre, ils sont un peu comme des zombies, là, des morts vivants. Tous sont morts spirituellement. Mais l'esprit du croyant qui était mort entend la voix de Jésus et il reprend vie. Si on pouvait avoir des lunettes là, pour voir dans le monde spirituel, on verrait beaucoup de gens qui sont revenus à la vie, qui brillent. Éphésiens 2, 5 et 6 dit « Nous qui étions morts par nos fautes, il nous a rendus à la vie. » On sait, c'est ce qu'on appelle la première résurrection. Nous sommes revenus à la vie, nous sommes ressuscités. Et nous pouvons déjà sentir les bénéfices de cette vie éternelle, mais ce sont des bénédictions spirituelles. Donc, une relation intime avec Dieu. Vous avez déjà senti que Dieu est avec vous. Particulièrement dans l'épreuve aussi, où on prie le Seigneur, puis on sent qu'il est là, il nous secourt. Il nous accorde sa paix, sa joie. On sent qu'il nous aime. Il prend soin de nous, il répond à nos prières. Il pourvoit à tous nos besoins. C'est le fait qu'on est rendu vivant, on a la vie éternelle. C'est pour ça qu'on peut expérimenter tout cela. Puis un des bénéfices extraordinaires de celui qui a la vie éternelle, c'est que lorsqu'il décède, parce que le Seigneur Jésus n'est pas encore revenu, espérons qu'il revienne avant qu'on décède, mais si jamais on décède et qu'on a la vie éternelle, on continue de vivre, notre âme continue de vivre et rejoint le Seigneur. C'est seulement ceux qui ont reçu la vie éternelle pour qui ça arrive, ça. Ceux qui ont reçu la vie éternelle parce qu'ils ont mis leur foi en Jésus, lorsqu'ils décèdent, leur âme est auprès du Seigneur et ils goûtent déjà à la paix. C'est la fin des travaux, la fin des peines, des souffrances. Mais c'est seulement une âme. Et Dieu ne veut pas qu'on reste seulement sous la forme d'une âme pour l'éternité. Donc Jésus parle d'un deuxième moment où il va faire vivre. La deuxième résurrection. Celle-là, elle est future. Au verset 28 et 29, Jésus parle d'un jour où les morts même vont entendre sa voix. Et là, dans ces versets-là, il ne dit pas « ici maintenant ». C'est futur. J'espère que c'est proche, c'est bientôt, mais c'est futur. C'est lors de la deuxième venue de Jésus. C'est la résurrection du corps. Et là, les élus ne seront plus simplement des âmes qui attendent. Ils seront ressuscités, leur corps sera renouvelé. Donc, Jésus reviendra à la fin des temps, et au son de sa voix, tous ceux qui sont décédés se relèveront. C'est vraiment la puissance de Dieu, la puissance divine. Jésus, simplement en parlant, « Levez-vous, tous nos frères décédés vont se relever. » Qu'on ait été incinéré ou mort dans une explosion, ça ne fait pas de différence. Dieu va nous ressusciter. Et même si nos os sont devenus de la poussière, nous serons réintégrés. Donc, tous ceux qui auront cru pendant leur vie sur la terre, pendant leur vie terrestre, ressusciteront pour une nouvelle vie, la vie éternelle. La vie éternelle que nous avons déjà, mais que nous allons pouvoir goûter pleinement dans tout notre être. Nous apprenons d'ailleurs dans le Nouveau Testament que nous aurons un nouveau corps. Donc Dieu ne va pas simplement nous remettre à neuf, il va nous transformer. Un corps spirituel adapté pour la nouvelle terre, où nous pourrons vivre pour l'éternité, où il n'y aura plus jamais de guerre, de peine, de deuil, de tristesse, de conflit, plus de mort. On apprend aussi que ceux qui ne seront pas décédés lors du retour de Jésus, mais seront transformés. Donc, si Jésus revient demain, nos frères décédés vont ressusciter avec un nouveau corps, mais nous aussi, nos corps seront transformés. 1 Corinthiens 15 dit, « Ce que je dis, frères, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu, que la corruption n'héritera pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, car elle sonnera. Et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous, nous serons changés. Il faut en effet que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité, que ce corps mortel revête l'immortalité. Et c'est Jésus qui fait tout ça. Impressionnant. Des millions de croyants par l'action de Jésus, en un instant, seront tous changés. Cette puissance-là dépasse notre compréhension. mais ayons la foi qu'il va vraiment le faire. Qu'arrivera-t-il de ceux qui sont décédés sans avoir cru en Jésus? Eux, on sait déjà que leur âme ne va pas se reposer avec Christ lors de leur décès, mais qu'est-ce qui va arriver au dernier jour? Mais Jésus dit qu'eux aussi vont ressusciter, mais pas pour la vie, pour le jugement. Ça amène à la deuxième action, la deuxième œuvre extrêmement importante que Jésus va accomplir. Donc, la première, c'est qu'il accorde la vie. La deuxième, c'est qu'il juge. C'est lui le juge, le grand juge, le juge des juges. Ça aussi, le jugement, c'est une tâche divine. Tout comme dans l'Ancien Testament, on lit que seulement Dieu, qui a la vie en lui-même et qui peut décider de la vie ou de la mort des êtres, l'Ancien Testament déclare clairement aussi que seul Dieu juge finalement. Abraham, on le lisait ce matin dans le cours, Abraham, lorsqu'il prie Dieu, il dit dans Genèse 18, « Loin de toi de faire une chose pareille, de mettre à mort le juste avec le méchant, en sorte qu'il en serait du juste comme du méchant, loin de toi. Celui qui juge toute la terre n'agira-t-il pas selon le droit? » Dieu est celui qui juge toute la terre. Plusieurs hommes se trouvent en position de juger, des dirigeants, des juges, des rois, mais ils le font finalement sous l'autorité de Dieu. Qu'ils en soient conscients ou pas, ça demeure Dieu qui juge. Ils exercent l'autorité parce qu'elle est déléguée de la part de Dieu. Mais ici, le Nouveau Testament révèle que Dieu le Père, finalement, ne jugera personne. Il a remis ce rôle-là de juger à son Fils. Le Père ne jugera pas. C'est Dieu le Fils qui va juger. Le verset 27 dit que Dieu a remis à Jésus le pouvoir ou l'autorité d'exercer le jugement parce que Jésus est Fils de l'homme. Ça, pour ceux qui ont lu l'Ancien Testament, et c'était le cas des Juifs à l'époque, ça résonne, ça. Cette expression-là, « Fils de l'homme », ça se trouve dans une prophétie de Daniel. Et ils avaient l'attente qu'un jour le Messie allait venir et il allait avoir l'autorité. On lit dans Daniel 7, « Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici sur les nuées du ciel arriva comme un fils d'homme. » Un fils d'homme que Daniel voit arriver. « Il avança vers l'Ancien des jours, qui est Dieu, et on le fit approcher de lui, on lui donna la domination, l'honneur et la royauté. » Et tous les peuples, les nations, les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera pas. Sa royauté ne sera jamais détruite. Donc Jésus dit que le Père lui a donné le pouvoir de juger parce qu'il est Fils de l'homme, mais justement parce qu'il a l'autorité suprême, l'autorité éternelle. Il domine sur toute la création. Maintenant, le mandat de juger, ça soulève une question parce qu'on a lu au chapitre 3 que Jésus n'a pas été envoyé sur la terre pour juger. Vous vous souvenez, après qu'il ait dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle, il ajoute, Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Donc, c'est vrai que la première venue de Jésus, il y a 2000 ans, lorsqu'il est venu sur terre, son mandat, sa mission, ce n'était pas de venir juger le monde. Mais par effet, c'est ce qui est produit. Parce que tous ceux qui croient en Jésus ont déjà la vie éternelle, ils sont déjà épargnés du jugement. Mais ceux qui refusent de croire, la conséquence, c'est qu'ils sont jugés. Non seulement ils seront jugés, mais ils le sont déjà. Ils sont déjà jugés. Donc, ce qui scelle notre sort pour l'éternité, là, c'est ce qui se passe maintenant. C'est si nous croyons ou non à Jésus. Jésus est venu nous sauver, mais ceux qui refusent son salut seront jugés. Donc, les deux mandats de Jésus, les deux œuvres, là, de donner la vie ou de juger, sont comme complémentaires. Il y a seulement deux groupes. Il y a un groupe qui va bénéficier de la vie que Jésus donne, et l'autre groupe sera jugé, c'est-à-dire condamné. Il n'y a pas d'intermédiaire, il n'y a pas de zone grise, de zone neutre. Et il n'y a pas de deuxième chance, il n'y a pas de purgatoire. Le temps où on doit prendre la décision de croire en Jésus, d'accepter son salut, c'est maintenant, c'est pendant notre vie. Lorsque Jésus reviendra, ce sera le jugement. Donc, nous sommes déjà jugés, mais ce que Jésus parle dans, au chapitre 5, dans son discours, il parle du jugement final, lorsque ça prendra effet. À son retour, à sa deuxième venue, il jugera le monde. Et là, il sera trop tard pour ceux qui ne se seront pas repentis. Et son jugement sera parfaitement juste, parce qu'il cherche toujours à accomplir parfaitement la volonté de Dieu. Donc, Dieu ne prend pas un risque, ne l'a pas peur en confiant à un homme le jugement de l'humanité entière, parce qu'il juge parfaitement selon sa volonté. Ça pourrait nous faire peur, parce que Jésus déclare que ceux qui auront été justes, ceux qui auront fait le bien, vont ressusciter pour la vie, ceux qui auront fait le mal vont ressusciter pour le jugement. Ça peut nous faire peur, parce que si Jésus est si juste, comment est-ce qu'on va faire pour échapper à son jugement? Chacun de nous, nous devons avouer que nous avons déjà péché. Et tout péché nous rend coupables devant Dieu. Tout péché mérite d'être puni. Dieu dit, je ne vais pas tenir pour innocent le coupable. Tout péché doit être puni. Mais lors de ce jugement, Jésus nous dit d'avance que tous ceux qui auront cru en Jésus pendant leur vie seront épargnés de la condamnation. C'est une grâce qui nous est faite. C'est le pardon en Jésus. Tous ceux dont le nom est inscrit dans le livre de vie de Jésus seront épargnés. Mais on peut quand même voir la différence. Ça se traduit par une vie qui est différente. Celui qui se repent ne vit plus en pratiquant le mal. Il vit en pratiquant le bien. Ça devrait être visible qui sont les enfants de Dieu, qui sont les disciples de Jésus, qui sont ceux qui ont la vie éternelle en eux. Une vie qui nous transforme, qui nous rend non seulement capables de faire le bien, mais même désireux de faire le bien. Donc, quand on est dans une mauvaise voie, c'est un avertissement pour nous, là. Est-ce que c'est parce qu'on s'est écarté de la bonne voie ou est-ce qu'on ne s'est jamais repenti? Est-ce qu'on fait vraiment partie du groupe qui sera sauvé? C'est un appel à se poser la question. Mais si vous avez mis votre foi en Jésus, que vous n'avez aucun doute là-dessus, vous pouvez être sûr que tout péché sera pardonné. Et je vous invite à tourner dans Apocalypse, chapitre 20, où nous voyons le jugement final. Apocalypse 20, verset 11. Chapitre 20, verset 11. « Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis, et c'est Dieu, et même plus précisément, c'est Dieu le Fils, c'est Jésus qui est assis sur ce trône. Devant sa face s'enfuirent la terre et le ciel. Il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, debout devant le trône. Des livres furent ouverts. Et heureusement, un autre livre fut ouvert, qui est le livre de vie. Les morts furent jugés d'après ce qui était écrit dans les livres, chacun selon leurs œuvres. La mer donna les morts qui s'y trouvaient. La mort et le séjour des morts donnèrent les morts qui s'y trouvaient. Ils furent jugés, chacun selon ses œuvres. La mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé inscrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Ce qui implique que ceux dont le nom est inscrit dans le livre de vie ne sont pas jetés dans l'étang de feu. Et le chapitre 21 poursuit en décrivant un nouveau ciel, une nouvelle terre, où ceux dont le nom est inscrit dans le livre de vie vont habiter pour l'éternité, avec Dieu qui vient habiter parmi eux, parmi les hommes. C'est Jésus qui vit avec nous pour l'éternité, qu'il est l'alpha et l'oméga. Donc c'est ce qui attend ceux qui mettent leur foi en Jésus, c'est d'être épargnés de la condamnation. Pourquoi Dieu a-t-il décidé que ce soit Jésus qui soit juge? Il avait prophétisé, mais pourquoi est-ce qu'il a décidé ça? Mais le verset 23, là, je sais que vous avez tourné la page, mais le verset 23 dans le chapitre 5 de Jean dit que c'est Dieu veut que ce soit le Fils qui juge. Pourquoi? Pour qu'il soit honoré. Le juge, c'est celui qui est honoré. C'est celui devant qui tout genou doit fléchir. Et toute créature doit se prosterner. Mais le Père veut que son Fils soit honoré. Que tous se prosternent devant lui, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Et c'est vrai au point, Jésus ajoute que celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père. Certains pensent qu'ils sont en train d'adorer Dieu sans se soucier de Jésus, sans croire en Jésus, mais ils ne sont pas vraiment en train d'adorer Dieu. Ils sont en train d'attiser la colère de Dieu. On ne peut pas honorer Dieu, le Père, sans honorer son Fils Jésus. Donc, Dieu, le Père, honore son Fils. Ce qui est paradoxal, c'est qu'il ne renonce pas à sa gloire en faisant cela. On lit dans Ésaïe 42, « Je suis l'Éternel, c'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre. » Il ne renonce pas à sa gloire parce que quand le Fils est glorifié, c'est à la gloire du Père. Ils sont un, en fait. C'est un seul et même Dieu. On lit dans Philippiens 2, 9 à 11, « C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, en parlant de Jésus, et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. » Donc, lorsque le Fils est glorifié, honoré au plus haut point, c'est à la gloire de Dieu le Père. Ça va ensemble. Ça ne ternit pas la gloire de Dieu. Donc, bref, le mandat que Jésus a reçu est de la plus haute importance, c'est de faire vivre et de juger le monde. C'est le mandat qui détermine le destin de toute la création, pour toute l'éternité. Ce n'est pas un petit rôle, là. C'est le plus grand mandat qui a jamais été confié. Jésus est Dieu. C'est pour ça qu'il mérite notre louange, toute notre adoration. Et c'est pour ça qu'on doit le louer haut et fort, et même jusqu'à Ouachat, ou dans toutes les nations, sans honte. En son honneur même, nous sommes invités à combattre le mal dans nos propres vies, combattre le mal dans le monde, défendre sa cause sans honte. C'est lui le roi des rois. Donc, montrons-nous dignes même d'être appelés ses disciples, d'être appelés ses frères. Puis, j'aimerais conclure sur une courte méditation sur la beauté de la relation entre le Père et le Fils dans la Sainte Trinité, le Dieu trinitaire qu'on adore. Cette relation entre le Père et le Fils devient le modèle vraiment à suivre. C'est le plus beau modèle d'une relation de coopération. Les deux sont égaux en nature, en dignité, mais pas en autorité. Ils ont des rôles différents. Le Père a autorité sur le Fils se soumet au Père en tout. Le Père exerce son autorité sur le Fils de quelle manière? En l'aimant. Donc, il veut son bien. Et même lorsque Jésus a été crucifié et que pour un temps, il a tourné le regard, il est allé le chercher. Il l'a ressuscité. C'est son Fils bien-aimé. Donc, le Père aime son Fils là, comme la prunelle de ses yeux. C'est ce qui est son bien le plus précieux. Donc, il exerce son autorité sur son Fils, mais par amour, donc pour le bien de son Fils. Et même, il honore son Fils. Le Fils suit la direction du Père, non en étant forcé, mais en cherchant volontairement à lui plaire. Ça fait sa joie là, de plaire à son Père, parce qu'il veut l'honorer. Il veut que son Père soit glorifié. Alors, c'est une soumission qui est volontaire, qui est heureuse. C'est le modèle à suivre dans nos relations. Partout où le Nouveau Testament nous invite à se soumettre à une autorité, c'est dans l'attitude de Jésus qu'il faut le faire. Lorsque nous avons un rôle d'autorité à jouer sur les autres, c'est dans l'attitude de Dieu, le Père, que nous devons le faire, avec amour, avec sacrifice. C'est le modèle à suivre dans nos couples, et c'est un beau modèle, où l'homme et la femme, le mari et son épouse, sont égaux en valeur. Vraiment égaux, mais avec des rôles différents. Et lorsque la Bible dit à l'homme de prendre le rôle de leader, d'être le chef du foyer, c'est avec le modèle du Père là, qu'il doit le faire, en aimant son épouse, en se sacrifiant pour elle, en l'honorant, en élevant son épouse, en la considérant comme co-héritière. Et lorsqu'il demande à l'épouse de se soumettre à son mari, c'est suivant le modèle de Jésus. Donc, avec une soumission volontaire, suivant la direction de son mari, dans la joie. C'est le modèle à suivre dans l'Église aussi, que les anciens dirigent l'Église sans être des tyrans, des dictateurs, comme Pierre dit, mais en étant des modèles par amour pour l'Assemblée, des modèles que l'on peut suivre, qui n'ont pas besoin de donner des ordres, et que l'Assemblée se soumette à la direction des anciens par amour pour honorer les anciens. Donc, cette relation père et fils qui est là depuis toute l'éternité, c'est comme incrusté dans la création parce que Dieu nous a créés à son image. Et c'est pour notre bien. C'est un test pour notre foi, mais si nous le mettrons en application dans nos vies, nous serons heureux. C'est la volonté de Dieu. Donc, honorons Dieu, honorons Jésus, n'ayons pas honte de dire que Jésus est Dieu. Amen.